Bienvenue aux Riches. Bienvenue aux Riches. Bienvenue aux Riches. Un titre évocateur pour nommer ces deux émissions consacrées à la rue de la République.
Sa plus grande avenue haussmannienne de la planète. Alors, Haussmann, c'était un préfet, donc c'était ni un urbaniste, ni un architecte. Néanmoins, il a défini un certain nombre de modèles, parfois d'ailleurs avec brutalité, en cassant des quartiers historiques, mais enfin, c'était pas la conscience de l'époque, on était sous Napoléon III. On a perdu le charme des ruelles, mais on a gagné en salubrité, en hygiénisme.
Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de cette rue que pouvoir public et privé s'associent pour attirer les classes supérieures. Dès son origine, d'ailleurs, vers 1860, le projet est approuvé par l'empereur lui-même et classe la nouvelle voie parmi les routes impériales. Pour ce faire, des milliers de personnes ont dû être expropriées, puisque près de 38 rues ont été rasées pour la fameuse percée haussmannienne. Au début, la rue profite du développement de l'activité du port, mais coup de l'histoire, la Première Guerre mondiale stoppa net les sociétés maritimes locales dans leur élan et le naufrage de la rue commença. Aujourd'hui, encore, le sort de la rue de la République semble étroitement lié à celle du port. Faisant partie du périmètre euro-méditerranéen, la rue entre dans le grand projet de réhabilitation et devient alors l'un des plus vastes chantiers de rénovation urbaine en France. La rue fait donc l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, une OPAH, chapeautée par Euroméditerranée et qui porte sur 5200 logements. Et dans le même temps, la rue fait aussi l'objet d'un chantier de requalification de l'espace public. Ça, vous l'avez remarqué, le tramway, le parking et bientôt des arbres, de larges trottoirs qui permettront l'ouverture de terrasses de café. Si, si, c'est vrai, je le tiens de source sûre. Bon, en attendant, le lifting de la rue, c'est pas sans douleur pour certains. Les habitants n'ont rien demandé, enfin si, la réhabilitation de leur immeuble et appartement, bien sûr. Tout du moins, la mise aux normes, ça évidemment, c'est une bonne chose. Encore aimeraient-ils pouvoir en profiter et rester dans leur logement. La situation n'est donc pas simple, puisque toute la difficulté et le paradoxe de ce projet est de mettre sur pied un quartier riche dans un quartier actuellement pauvre. On ne peut pas transformer une population du jour au lendemain, et pourtant l'enjeu pour un des deux grands opérateurs de l'histoire est d'avoir vendu tous ses appartements réhabilités d'ici 2009. Bien sûr, les avoir vendus à un bon prix. Il faut donc faire vite, sinon on perd de l'argent bien sûr. Deux émissions donc pour tenter de décortiquer la complexité du projet et de voir se dessiner les contours du nouveau visage républicain de la rue. Aujourd'hui, c'est autour du projet dans son ensemble que nous irons et demain, l'émission portera justement sur la question précisément des habitants, certains heureux d'avoir été bien relogés, d'autres toujours inquiets de leur sort. Commençons donc notre visite de la rue par la porte d'en haut, avec Pierre Figueras, le directeur général adjoint d'Euroméditerranée, remise en contexte.
Effectivement, Euroméditerranée a 10 ans depuis l'an dernier, bientôt on a même 11 ans maintenant. Euroméditerranée a été lancée donc, dans la période 95-96, à une période où le centre-ville de Marseille perdait à la fois énormément d'emplois et énormément d'habitants. Et donc, Euroméditerranée a été vu par l'État et les collectivités comme étant une réponse au cercle vicieux de paupérisation du centre-ville de Marseille. Quand on dit que Marseille perd des emplois et des habitants, on parle de 50 000 emplois, 100 000 habitants perdus en 20 ans. C'est une perte de richesse et de population très importante. Et donc, à cette époque-là, l'État, la ville, le conseil général, le conseil régional, qui sont rejoints par la communauté urbaine à sa création, se mettent ensemble et décident de lancer cette opération donc de travail collectif sur le centre-ville. Et donc, un établissement public est créé, Renaud Muselier en prend la présidence, un périmètre d'opération d'intérêt national est décrété, et puis il y a un premier accord financier qui entre les différents partenaires pour mettre en place justement cette mécanique opérationnelle. Alors, les premières années, les Marseillais ne verront pas grand-chose, parce que la montée en régime de ce genre d'opération est toujours difficile, il faut faire les études, il faut acheter les terrains, il faut mener les travaux d'infrastructure, il y a beaucoup de tunnels qui ont été réalisés pendant des années, Les Marseillais n'ont pas vu les résultats concrets de tous ces efforts, mais c'était une préparation qui était indispensable. Et puis maintenant, depuis 2001-2002, les résultats deviennent beaucoup plus visibles, beaucoup plus tangibles. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, l'établissement public a investi environ 300 millions d'euros depuis sa création. Ces 300 millions d'euros ont généré plus d'un milliard d'euros d'investissements privés. 2000 logements neufs ont été lancés ou réalisés et 17 000 emplois ont été créés sur le périmètre, ce qui correspond à 7 000 emplois nets supplémentaires par rapport à ce qu'on connaissait en 1995.
Pourquoi la rue de la République est-elle entrée dans le périmètre Euro-Méditerranée ?
Alors ça, il faudrait demander aux concepteurs de l'opération en 1995. Il y avait eu à l'époque plusieurs missions d'études et de préfigurations qui s'étaient succédées. Ce qu'on peut dire pour résumer, c'est qu'un périmètre d'opération d'intérêt national, il a comme logique de concentrer des terrains, des territoires qui ont un fort potentiel de renouvellement urbain ou qui posent des problèmes urbains extrêmement importants. On le voit au travers l'exemple type, c'est la friche de la Belle de Mai, qui était à l'époque, en 1995, la plus grande friche industrielle en centre-ville de France. La rue de la République, tous les Marseillais se souviennent de l'état dans lequel était cette rue jusqu'à encore il y a 2-3 ans maintenant. Et puis tout le quartier de la Joliette et d'Arin, qui était un quartier dans lequel, qui en 95 était constitué de friches et de vieux hangars qui étaient utilisés, mais qui montraient à l'évidence un potentiel de renouvellement et un potentiel de transformation qui était très important. Donc lorsque nous avons travaillé sur un nouveau périmètre, nous avons essayé d'identifier justement les territoires qui permettaient d'envisager un potentiel de transformation urbaine forte. Non pas parce que ces territoires sont inutilisés, il n'y a pas de territoire, la nature horreur du vide, donc un espace en centre-ville est forcément utilisé par quelqu'un pour faire quelque chose, mais avec des potentiels de transformation qui peuvent être très très importants. Voilà en gros la logique.
Alors quand vous parlez de potentiel, c'est à quel niveau ?
Alors on voit l'objectif de Euro-Méditerranée depuis 1995, c'est de construire des logements pour tous les Marseillais. Depuis, je rappelle que sur les 2100 logements qui ont été lancés depuis 1995, il y a 30% de logements sociaux. Ça, c'est un premier élément de transformation. Il y a aussi la constitution d'un quartier d'affaires tout autour de la Joliette, avec des immeubles de bureaux qui sont aux normes internationales, qui sont livrés de façon régulière pour alimenter la création d'emplois sur ce périmètre. Il y a la création d'espaces publics, on peut par exemple parler du J4 ou de ce qui se passe autour de la Porte d'Aix. Une transformation pour justement permettre de construire la ville de demain, une ville avec des logements de qualité, avec de l'immobilier pour accueillir des entreprises et pour créer des emplois, et puis des espaces publics pour permettre à chacun de vivre agréablement et confortablement dans une ville moderne. Ce que je sais, c'est que l'enjeu, c'était cette rue qui est magnifique, qui était potentiellement magnifique, qui est en train de le redevenir tous les jours aujourd'hui avec l'espace public qui se sort des travaux. Je la remonte à pied tous les matins et tous les soirs, donc je vois, je mesure les avancées et on a mesuré aussi la pénibilité et l'ampleur de ce chantier. Il faut savoir que nous pensons que depuis 2 ans, la rue de la République a été un des plus grands chantiers de transformation en centre-ville de France et peut-être même d'Europe. Sous la place Sadi Carnot, il y a eu un bassin d'orage qui a été réalisé, il y a un parking souterrain qui est en cours d'achèvement sous la rue de la République. Les immeubles font l'objet de transformations importantes autour. Le tramway, la rue a été complètement refaite et en train d'être achevée. Donc c'est un chantier d'une très grande ampleur, très grande complexité technique aussi, parce que il faut que Les interventions se faisaient quasiment en même temps sur des espaces extrêmement réduits. Enfin, donc les entreprises ont fait un vrai tour de force dans tout ce chantier. Et donc, voilà, on voit ces trucs qui se transforment. Les habitants des appartements refaits commencent à emménager. Donc, la période de travaux, l'intensité des travaux commence à diminuer parce que les projets s'achèvent. Maintenant, on entre dans une nouvelle phase. Les habitants vont commencer à emménager dans leurs nouveaux appartements. Donc, voilà, on va regarder ça et suivre ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt, comme on le fait depuis maintenant des années. Pendant des années, on a buté sur l'ampleur de ce sujet, la difficulté à trouver une solution opérationnelle. Cette solution, elle a commencé à se mettre en œuvre depuis 2004, sous l'œil très précis et très vigilant du préfet et des pouvoirs publics, pour justement faire en sorte que le droit soit respecté. Et c'était très très important. Mais voilà, je crois que la transformation aujourd'hui, elle est extrêmement visible et je pense que à la mise en service du tramway, il y a de nombreux Marseillais qui vont redécouvrir comme ça, pas seulement la rue de la République, mais d'autres avenues du centre-ville. Mais enfin là, la transformation de la rue de la République, elle est particulièrement impressionnante.
Quel sera le nouveau visage de la rue de la République ? Pierre Figueras, directeur général adjoint d'Euroméditerranée.
Je pense qu'on peut voir une grande artère haussmannienne avec des immeubles qui auront été, pour la plupart d'entre eux, complètement refaits, et avec en pied d'immeuble des commerces attractifs. C'est en tout cas ce qu'on souhaite. Et surtout, et avec une desserte par le tramway. Et on voit dès aujourd'hui, on voit que la place de la voiture qui a été fortement réduite par les aménagements qui ont été réalisés, fait qu'on a une artère qui sera une artère apaisée, une artère calme, et je pense une artère très attractive, à la fois pour les habitants et pour les gens qui voudront venir s'y balader ou faire des achats. Donc voilà, c'est ça notre vision qu'aujourd'hui on commence à percevoir quand on s'y balade.
Qui sont les propriétaires de la rue de la République ?
Alors sur la rue de la République, donc la rue de la République, c'est 5000 logements à peu près. Il y a deux propriétaires principaux, Euraseo d'un côté et Marseille République de l'autre, qui à eux deux sont propriétaires d'environ la moitié des logements de la rue.
Et les autres,
ce qu'on appelle des petits propriétaires. Alors certains sont propriétaires il y a des propriétaires d'un appartement, puis il y a des petits propriétaires qui sont propriétaires d'immeubles entiers, mais par rapport aux 1300 logements des deux gros propriétaires, on les qualifie quand même de petits propriétaires. Voilà, c'est donc il y a toute une 2500 logements, donc comme ça, qui sont la propriété de différentes personnes. C'est le résultat de l'histoire et des transactions immobilières.
Éric Foyard, directeur de Marseille République, l'un des deux propriétaires.
La rue de la République rénovée, c'est la reconnexion d'Euroméditerranée, enfin la connexion ou la reconnexion d'Euroméditerranée au centre-ville, et ça en fait un quartier de bureaux, une zone d'emploi qui est en centre-ville. C'est tout à fait extraordinaire parce que c'est une vraie particularité. Ça va bien dans le sens de l'histoire où aujourd'hui le phénomène du retour au centre-ville est un phénomène inéluctable qu'on observe dans toutes les grandes villes, en fin de compte, parce que ça veut dire moins de temps de transport, ça veut dire pour les gens qui habitent à des endroits où il n'y a pas de transport en commun, on n'a pas la nécessité d'avoir pour un couple de voitures, hein, ce qui est quand même un budget absolument énorme. Nous avons certains de nos acquéreurs qui nous ont dit, mais ça existe d'ailleurs dans d'autres villes, on n'aura pas de voiture, on fait tout en transport en commun, il y a le métro, il y a le tramway, il y a les bus, et puis les 6 fois par an où on en a besoin, on va chez un loueur de voiture. Quand on fait le calcul entre le coût d'un parking, l'achat de la voiture, l'entretien, l'essence, l'assurance, si on fait vraiment ce calcul, on s'aperçoit que c'est une bonne solution économique.
Yeah. Un peu d'histoire pour comprendre l'actualité, Éric Foyard, directeur de Marseille République.
Aujourd'hui, bon, le reformatage de la rue de la République, c'est l'action conjuguée du public et du privé, le public pour l'espace public et le privé pour le patrimoine bâti. En ce qui concerne l'espace public, bon, on a une avenue assez large, très longue, qui fait 1,3 km, qui avait été conçue à l'origine pour être l'artère de liaisonnement de l'hypercentre de Marseille, symbolisé par le Vieux-Port, au port de commerce, qui était le poumon du développement économique de Marseille à cette époque-là, Marseille ayant acquis au cours de la deuxième partie du XIXe siècle le statut de capitale économique de l'Empire colonial. Donc les marchandises de l'Empire colonial arrivaient essentiellement, enfin les matières premières de l'Empire colonial arrivaient essentiellement à Marseille, en dehors des Antilles, où c'était plutôt Bordeaux ou Le Havre. Et cette avenue a connu un certain nombre de vicissitudes et les ambitions initiales ont bloqué sur différentes choses. D'abord, la première, c'est que ça n'a pas été vécu comme, par les Marseillais comme une avenue qui amenait de l'hypercentre à la nouvelle économie, mais comme quelque chose qui allait au carreau de la mine. C'est pour ça que les frères Pérère qui avaient démarré la construction de la rue de la République, ils ont laissé, ça s'est terminé par un dépôt de bilan, pour faire simple. À la suite de quoi, ceci a été repris par la société Rue Impériale, qui a été constituée pour reprendre tout ça. Société Rue Impériale, devenue, pour faire simple, par filiation, la CIM, Société des Immeubles Marseille, et aujourd'hui ANF. Le patrimoine qui concerne Marseille République est un détachement de ce patrimoine vendu à Danone puis à un investisseur qui s'appelait P2C et que nous avons racheté en 2004 avec l'intention de rénover tout ça. À l'époque, ça n'avait pas marché et ils sont restés sur les principes d'organisation de façade, c'est-à-dire avec des corniches filantes.
Qu'est-ce qui n'avait pas marché à l'époque ?
Ça a été boudé par les Marseillais, ils n'ont pas voulu venir. Clairement, ils n'ont pas voulu venir. C'était destiné à être soit de l'accession à la propriété, pour parler un langage moderne, soit être ce qu'on appelait les immeubles de rapport, des immeubles locatifs, à vocation plutôt bourgeoise. Les Marseillais qui en avaient les moyens, soit de payer des loyers élevés, soit d'acheter des logements, on préférait rester de l'autre côté. C'est-à-dire sur la partie sud de Marseille. Ça s'est passé comme ça. Et donc, quand la rue Impériale a repris, la société de la rue Impériale a repris ce patrimoine, et avec l'intention de terminer la rue, ils ont gardé un certain nombre de principes de l'ordonnancement haussmannien, comme vous le trouvez, à Paris, rue de la République à Lyon, Buenos Aires aussi, où il y a un quartier haussmannien très important. Mmh. Ah oui, l'Argentine a été très très prospère. Et le centre, Buenos Aires était une ville très prospère. Voilà, la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Et après, pour d'autres raisons, ça s'est un peu dégradé. Et donc, ça veut dire des corniches, des îlots assez longs, avec des modélatures de façade, des corniches en pierre sculptée filante horizontale, et quand la rue est en pente, ce qui est le cas ici, un entresol qui était l'étage de rattrapage, qui va de hauteur sous plafond à 190, jusqu'à des hauteurs sous plafond à 340, pour que tout ça soit horizontal. Derrière ces façades, ils n'ont pas fait le parc Monceau, et principe de réalité, ils ont fait du logement locatif en se disant on va y loger les navigateurs. Les navigateurs, c'est un terme générique qui à l'époque regroupait les équipages des navires et les dockers. Ils ont loué ça à des tarifs extrêmement bas, mais néanmoins, c'était encore assez cher pour les gens à qui c'était destiné, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, et donc cette rue, elle est restée toujours partiellement vide. Elle est restée partiellement vide, et d'une part, et d'autre part, elle a été le terrain d'atterrissage des différentes couches d'immigration qui se sont installées à Marseille à partir du début du XXe siècle. c'est-à-dire dans un ordre à peu près chronologique, parce qu'évidemment il y a des recouvrements des arrivées suivant les origines, tout se fait, ça s'est pas fait, ça n'a pas été séquencé. Vous avez eu les Italiens, les Arméniens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins et les Asiatiques, c'est-à-dire à la fois des Chinois et des Vietnamiens. Et chaque fois que des immigrants arrivaient à Marseille et se refaisaient une santé économique, au bout de quelque temps, ils déménageaient, ils allaient ailleurs. Donc ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Dans le même temps, le quartier historique qui jointait la rue de la République, c'est-à-dire le quartier du Panier, est un quartier aussi qui a toujours été un quartier populaire, mais qui se paupérisait un peu aussi. Voilà, voilà l'histoire. Alors, par rapport à l'haussmannien de luxe parisien, il y a un certain nombre de fonctions internes de l'architecture d'intérieur qu'on ne retrouve pas rue de la République, c'est-à-dire il n'y a qu'une grande porte cochère par îlot, alors que l'haussmannien parisien, par exemple, vous en avez une par immeuble. Cette porte cochère, comme son nom l'indique, elle menait au bout à des grandes cours où vous aviez des remises à calèche. Malheureux, ils n'avaient pas de calèche. Le dernier étage des immeubles à Paris, vous aviez des chambres de bonne. Ici, ils n'avaient pas de domestique. Ils faisaient le ménage et la vaisselle eux-mêmes, ça c'est clair. Donc voilà. Et ce patrimoine s'est lentement vidé. Plus on allait vers la Joliette, plus il se vidait. Et c'est ainsi que pour un certain nombre, dans le cadre d'un accord, il a été vendu en 1988 à Danone un certain nombre d'immeubles, enfin une filiale.
Ça appartenait à la société impériale, c'est ça?
Oui, c'est ça, devenu CIM. Mais CIM, ouais. C'était 100% rue impériale, Société des immeubles de Marseille. Et donc ce détachement de patrimoine s'est fait sur cette revente à la filiale de Danone, la filiale immobilière de Danone, s'est fait sur le critère des immeubles les moins occupés. Un investisseur traditionnel patrimonial, il raisonne en matière d'occupation. C'est-à-dire, il se dit, un immeuble peu occupé, il donne peu de loyer, et en fin de compte, ça fait un bilan à perte, parce que même si un appartement est vide, le propriétaire a la taxe foncière, etc. Ensuite, sur les immeubles sur lesquels, en 88, il y avait la plus grande urgence à faire des travaux, souvent très lourds. Et enfin, troisième critère, le critère de situation, c'est-à-dire plus on était près de la Joliette, moins ça leur paraissait désirable. Il faut dire que l'étincelle de démarrage de Romeil Tarnay, c'est 95. Bon, voilà. Et là, ça menait plus à l'activité portuaire. Tout ce coin-là de la Joliette, c'était plutôt devenu un no man's land. Enfin, les docks avant la rénovation faite par Castaldi. C'est un chef-d'œuvre, à mon avis, d'intelligence dans la remise en valeur d'un patrimoine ancien, industriel. C'est formidable ce qui a été fait. Et donc voilà, Danone a gardé ça de 88 à 2000, sans vraiment le re-remplir, sans faire de travaux, ou quasiment pas, enfin juste les travaux d'urgence, mais pas du tout de réhabilitation. A revendu ce patrimoine à tous ces immeubles, il y en avait 124, enfin on en a 124, les a revendus à la société P2C en 2000 et en 2004 nous avons racheté les parts de P2C avec l'intention donc de réhabiliter ces immeubles, ce qui maintenant est en cours et sera complètement fini en 2009. Voilà.
Donc vous réhabilitez, vous rénovez évidemment avec l'aide d'un investisseur. Enfin, vous pouvez pas faire ça.
Oui, tout à fait. L'investissement pour l'achat des immeubles et la rénovation, c'est un pool constitué du fonds d'investissement Lone Star, des caisses d'épargne et de la Société Générale.
Alors eux,
le fonds d'investissement Lone Star, juste pour présenter, c'est ce sont les investisseurs du fonds Lone Star, c'est la Caisse des dépôts et placements du Québec, qui est un organisme qui ressemble, enfin pas qui ressemble, mais qui est à la fois les caisses d'épargne françaises et des caisses de retraite. C'est quelque chose comme ça, il y a du livret A, il y a des petits épargnants, enfin bon, ça fonctionne exactement sur le même principe que nos caisses d'épargne. Et puis on a dans les investisseurs, il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, des fondations médicales et des fondations d'université. Voilà.
Alors, j'imagine que leur intérêt à eux, c'est pas d'investir pour dans un but philanthropique, de remettre à neuf un beau périmètre architectural.
Mais aucun investisseur ou industriel n'a de but philanthropique. Il a un but de profit. Après, tout l'art consiste dans la manière dont on mène son action économique. Mais bon, les investissements du fonds Lone Star, ça consiste à prendre des objets extrêmement délabrés ou avec des capitaux, du travail et des équipes dévolues. Par exemple, Marseille République, il y a 35 personnes, sans compter évidemment tout l'environnement professionnel, les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les bureaux de sécurité, etc., et à repositionner des patrimoines, des immeubles, et à les remettre à neuf, voilà. Donc une fois qu'ils sont remis à neuf, il y en a une partie qui peut... Enfin, on vend certains. Il y a des immeubles qui sont dévolus à la vente et d'autres à la location.
Bruno Keller, président d'ANF, filiale d'Orazeo.
ANF est une société foncière cotée en bourse et qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans le paysage français des sociétés foncières. Pas d'équivalent parce que son patrimoine est composé uniquement d'immeubles haussmanniens, en dehors de Paris, dans les deux plus grandes villes françaises que sont Lyon et Marseille, un patrimoine exclusivement de centre-ville, les deux rues de la République, Presqu'île à Lyon et Vieux-Port, place de la Joliette à Marseille, avec à chaque fois un mix commerce en rez-de-chaussée, bureaux et logements, et avec une particularité à Marseille, c'est qu'en dehors de ce patrimoine existant, ANF dispose de réserves foncières importantes qu'elle va mettre en valeur et qui vont représenter un accroissement de son patrimoine de plus de 150 000 m² qui viendront s'additionner aux 180 000 déjà bâtis à ce jour.
Qu'est-ce que vous appelez une réserve foncière ?
Réserve foncière, ce sont aujourd'hui soit des terrains qui ne sont pas bâtis, je pense notamment à 80 000 m² qui ne sont pas ou peu bâtis dans le secteur d'Euroméditerranée, soit des terrains sur lesquels il y a aujourd'hui peu de construction et que nous allons totalement réhabiliter, notamment autour de la rue de la République, et ça va représenter plus de 70 000 m², et donc 80 plus 70, ça fait 150 000 m² de projets à Marseille.
Alors vous nous rappelez justement que ce qui intéresse aussi ANF au niveau du patrimoine, c'est beaucoup de l'architecture du 19e, particulièrement en centre-ville. Et là, le fait du hasard fait que les deux rues sur lesquelles vous travaillez actuellement à Lyon et à Marseille portent le même nom. Est-ce que c'est justement le fruit du hasard ? Pourquoi vous intéressez à cette époque-là particulièrement et à l'architecture haussmannienne ?
Écoutez, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard, puisque... ces ensembles immobiliers étaient dans le groupe Euraseo, puisqu'ils appartenaient à la société mère d'Euraseo à l'époque, la rue Impériale, qui avait donc des actifs tant à Lyon qu'à Marseille. Nous avons commencé à gérer nous-mêmes en direct ce patrimoine à partir du mois de mai 2004, date à laquelle nous avons fusionné, et ce patrimoine a été apporté à ANF, en mai 2005, et donc c'est depuis cette date-là que véritablement le nouvel élan de réhabilitation de ce patrimoine, en particulier à Marseille, a été donné.
Quand vous avez récupéré ce patrimoine en mai 2005, dans quel état était-il et où en est aujourd'hui la procédure de réhabilitation ? Je parle de la rue de la République à Marseille.
Oui, absolument. Écoutez, c'est un secret pour personne et sûrement pas pour les Marseillais que ce patrimoine était en mauvais état à Marseille. Il avait subi des dégradations importantes au cours des années et notamment les ravalements qui avaient pu être faits, ils avaient été faits dans de mauvaises conditions. Nous avons donc décidé de commencer notre réhabilitation par la réhabilitation des façades extérieures, ce qui a nécessité... un chantier qui a duré à peu près 12 mois, qui s'est terminé à l'été 2006, que nous avons fait en liaison avec les architectes des monuments historiques et nous sommes attachés à remettre en valeur ce patrimoine, à recréer les décors qui avaient pu être massacrés au cours des années ou qui avaient pu être masqués par des travaux, notamment de façades commerciales, faits sans aucune homogénéité. Et donc aujourd'hui, c'est une rue totalement nouvelle, totalement réhabilitée, en particulier dans son premier tronçon, Vieux Port, Place Sadi Carnot, qui s'offre aux Marseillais.
Donc d'ici 2009, la figure de l'habitat, mais aussi, j'imagine, extérieur des commerces, va complètement changer. Il y aura un autre paysage devant nos yeux.
Oui, tout à fait. On aura complètement fini. Bon, quand on a acheté aussi, il y avait plus de 70% des commerces qui étaient vides, on les restructure et on va y implanter. Ce n'est pas encore commencé en ce qui nous concerne parce que les implantations, il faut qu'elles soient synchronisées avec la rénovation des immeubles. Si on implante un commerçant et puis que 6 mois après on arrive, on repose devant chez lui nos échafaudages, les bâches et l'eau du micro-gommage, c'est la méthode du micro-gommage pour refaire les façades, le lait de chaud pour raviver les pierres, c'est pas jouable. Donc ça va se faire et tout ça sera fini aussi courant 2009, donc avec plusieurs types de commerces. D'abord des petits commerces de proximité, on est en contact avec beaucoup de commerçants marseillais qui sont très intéressés à s'implanter. Alors le commerce de proximité, ça peut être de l'alimentaire, ce sont des journaux, c'est toutes sortes de choses, enfin c'est bon, voilà. Tout ce qu'on appelle les commerces de bouche. Bon. Ensuite, on a des commerçants indépendants, alors dans d'autres domaines, le textile, la maison, l'équipement de la personne, etc. Ce sont des commerçants marseillais qui veulent ouvrir un deuxième point de vente, puisque entre ANF qui rénove son propre patrimoine et ça fait une petite, c'est environ 300 logements. Nous, 800 logements, les opérations de première proximité de logements dans l'Euroméditerranée, ça fait 4000 habitants de plus. Ça justifie le bon fonctionnement d'une rue commerciale. Une rue commerçante. Et puis, on a des grandes enseignes aussi qui viennent s'implanter. Il y a un certain nombre de grandes enseignes qui ne se sont jamais implantées à Marseille parce qu'elles n'ont jamais trouvé la taille dont elles avaient besoin en centre-ville. Ça tient à l'histoire de Marseille avec les immeubles, 2 fenêtres, 3 fenêtres, qui fait en pied d'immeuble des commerces minuscules. Et quand vous changez d'immeuble, vous changez de copropriété pour faire un commerce plus grand, ça veut dire qu'il faudrait que, par le hasard des choses, il y ait 2 lots mitoyens qui se libèrent en même temps et qui plus est que les 2 copropriétés soient d'accord pour qu'on fasse un trou dans les murs porteurs pour les faire communiquer. Vous voyez, c'est pas très simple. Bon, ça, c'est des choses que nous faisons parce que et on s'accorde avec nous-mêmes, si je puis dire, puisqu'on a les immeubles mitoyens et il y a des travaux de restructuration lourde qui sont faits pour pouvoir implanter des magasins plus gros. C'est comme ça qu'on a déjà contracté avec Monoprix, qui va être notre locataire et qui va faire un Monoprix juste au milieu de la rue, dans l'îlot qui est équidistant de Vieux-Port et de Joliette, mais on en a un certain nombre d'autres en cours de signature.
C'est pas une enseigne tellement de marque, ça, Monoprix.
Non, c'est une multimarque, ça. C'est un magasin, ça, c'est dans la catégorie magasin populaire, ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait.
Mais pour l'instant, on va dire dans les enseignes un peu haut de gamme, est-ce qu'il y en a qui ont contracté avec vous ?
On est en train de dans des enseignes de marque, on va dire. Ouais. On en a une de trentaine avec qui on discute. Alors, c'est très long parce que à chaque fois il y a un aspect technique, c'est pas tellement le bail c'est assez simple, mais c'est l'aspect technique de mettre au point avec les architectes intérieurs des enseignes et nos bureaux d'études et architectes évidemment, d'organiser les lieux pour que ça fonctionne bien.
Ils n'ont pas les inquiétudes aussi concernant peut-être la clientèle, quoi, qui pour l'instant n'est pas encore là
Non, mais au moment où ils s'implanteront, elle sera là. Alors les grandes clientèles, c'est quoi ? C'est d'abord les habitants. Ça fait 4000 nouveaux habitants dans la zone de chalandise primaire, première proximité. La zone de chalandise primaire, c'est un magasin où vous vous rendez à pied, sans transport en commun, 300 mètres. Bon. Ça, c'est la première catégorie de clientèle.
Là, pour l'instant, sur les 4000, il y en a combien qui sont arrivés depuis 2000? Parce que je crois que la première livraison a été en décembre dernier.
Oui, tout à fait. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, en livraison, c'est très peu. Hein, on en est à une trentaine d'appartements livrés. Mais enfin, au fil de l'eau...
En 2 ans, oui. 4000 personnes vont arriver, vous
pensez? Oui, absolument. Ben oui, parce que vous avez un temps de latence très important sur les chantiers. Entre les études, l'instruction des permis de construire, malheureusement trop longue, 12 à 14 mois, ce qui est comme ça, enfin bon, ce qui n'est pas la loi, mais ce qui est de manière effective la manière dont ça se passe. La loi Chalandon sur la durée d'instruction des permis de construire, encore en vigueur aujourd'hui, c'est 2 mois de base. Ici, on est en zone en ZPPAUP, ce qui veut dire zone de protection ZPP, du patrimoine architectural, et urbanistique et paysager. Voilà, bon, la rue de la République est classée en ZPPAUP. Un mois de plus pour instruire un permis dans une zone protégée, on devrait avoir les permis en 3 mois. C'est plus long, c'est comme ça. L'instruction des permis, les marchés d'entreprise, la construction où on est entre 12 et suivant l'état de la nécessité de travaux sur les immeubles entre 12 et 18 mois. Vous voyez, c'est 12, c'est un peu moins long que du neuf. 18 mois, c'est le temps de travaux, c'est le temps de travaux du neuf. Ouais. Non, c'est...
Pour un immeuble entier, 18 mois, ou pour juste un...
Oui, pour un îlot, mais un îlot, c'est 12 immeubles d'un coup. Donc, l'entreprise, elle ne commence pas les 12 à la fois, il y a un phasage. On commence un, 15 jours après, on commence un autre, etc. Donc, après, les livraisons, on va livrer au rythme, à un moment donné, on sera au rythme de 17 ou 18 livraisons par mois. Voilà, ça va aller assez vite. Comment ?
17 appartements.
Livraison d'appartements, soit à des locataires, soit à des gens qui ont acheté un logement. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir au commerce et à la zone de chalandise primaire. Ensuite, en plus des habitants, y a tous les gens qui travaillent dans les docks, pour qui ça va devenir du commerce de proximité. Les courses entre midi et 2 heures, ça a du sens. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres quartiers de bureaux. Euroméditerranée, enfin la partie bureau de Euroméditerranée présente cette spécificité, c'est que c'est la seule zone de bureau en France, c'est la seule zone de bureau neuve, à tous égards, dernier cri, etc., qui sont en centre-ville. Euroméditerranée, c'est le centre-ville. Savez-vous que du milieu des docks au Vieux-Port, il y a la même distance que du Vieux-Port à Castellane?
Évidemment, à l'époque, et peut-être encore maintenant, il y avait soit des habitants, soit des commerces déjà en place. Donc comment s'est passée la relation avec eux? Bruno Keller, président d'ANF, filiale d'Orazeo.
Écoutez, une des caractéristiques que j'aurais pu rajouter tout à l'heure d'ANF est que la rénovation que nous entreprenons est destinée à la location. Nous ne vendons ni appartements, ni commerces, ni bureaux. Nous avons donc dû nous inscrire dans une stratégie uniquement de dialogue avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des personnes physiques habitantes ou des commerçants. Et donc nous avons noué ce dialogue, en particulier pour les commerçants, afin de savoir s'ils souhaitaient rester rue de la République ou pas. Lorsqu'ils souhaitaient partir, nous avons trouvé avec eux un accord amiable dans le strict respect de la législation sur les baux commerciaux. Et lorsqu'ils ont souhaité rester, nous avons noué un partenariat avec eux, c'est-à-dire que nous avons pris en charge une partie de la réfection de leur devanture, pour là aussi contribuer à l'harmonisation de la rue, 50% étant payé par le commerçant, 50% par ANF.
Alors dans le cas où le commerçant ne pouvait pas payer ses 50%, parce que pour eux, j'imagine que ça peut être une somme qui n'était pas prévue dans leur budget, et relativement importante, donc...
Écoutez, au mieux de ma connaissance et à ce jour, ce cas n'est jamais arrivé, parce que je pense que les commerçants ont été sensibles aux perspectives de revalorisation à terme que ces travaux sur la rue de la République, accompagnés par les travaux de voirie, allaient offrir. Et donc, ce cas-là ne s'est pas produit, sachant que par ailleurs, ils peuvent disposer d'aides des pouvoirs publics pour les aider à financer leur quote-part de 50%.
L'idée de, dans la revalorisation de cette rue est également de changer la figure, enfin le paysage même de la rue, donc le type de commerce et aussi le type d'habitants. Si dans le cas où des commerçants qui ne correspondent pas tout à fait aux critères de renouveau de valorisation de la rue, comment faire avec ces types de commerces?
Écoutez, encore une fois, tout ne peut se faire que par négociation amiable. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres possibilités, et donc c'est cette voie-là que nous avons uniquement utilisée et qui nous a permis aujourd'hui, effectivement, de disposer d'un peu plus de 5000 m² de surface que nous allons pouvoir et que nous sommes en train de commercialiser pour faire venir à côté de commerces existants, à côté de commerces de proximité, car il n'est pas question que la rue qui accueille des habitants ne soit qu'une rue commerçante et ne vive pas par des boulangers, des caves à vin, des marchands de journaux. C'est grâce à cette combinaison que nous avons pu aujourd'hui offrir ce nouveau visage de la rue de la République.
Alors expliquez-nous comment fonctionne la partie financière, qui n'est pas forcément une de nos spécialités à Radio Grenouille, mais j'imagine évidemment que l'un des objectifs aussi dans la dynamisation de ce patrimoine est d'effectuer un certain rendement.
Oui, bien sûr. Un des principaux problèmes auxquels nous avons eu à faire face en arrivant est que dans la rue de la République, il y avait énormément de logements vacants. Nous nous sommes donc en priorité attaqués à la rénovation de ces logements vacants, qui étaient évidemment une mauvaise chose pour la rue de la République. Et donc nous rénovons en ce moment à peu près 100 appartements, c'est-à-dire un peu plus de 7000 m² de logements que nous remettons sur le marché, j'incite, de la location chaque année. Et évidemment, en remettant ça sur le marché de la location, cela nous permet d'encaisser de nouveaux loyers et d'améliorer notre rendement.
Sauf dans le cas d'un logement social.
Alors, la partie sociale était extrêmement précise. Nous avions un cahier des charges qui était là lorsque nous avons repris ce patrimoine. Nous devions réaliser 100 logements sociaux dans les critères de loyer correspondant aux logements sociaux, et cet engagement est totalement respecté et sera totalement finalisé. Les 100 logements seront tous loués d'ici le mois de juin de cette année.
Est-ce que vous avez dû commencer à procéder à des relogements d'habitants?
Écoutez, nous avons pour certains effectivement procédé d'une façon encore une fois volontaire à des relogements, puisque comme nous avons créé d'une part des logements sociaux, nous avons pu offrir à certaines personnes qui habitaient des appartements dans des états extrêmement délabrés avec un sanitaire quasi existant, nous avons pu leur offrir la possibilité d'aller habiter dans des appartements totalement rénovés, car nos rénovations en matière de logement social sont diffus dans notre patrimoine et de même qualité que les autres rénovations. Et nous avons pu leur proposer, pour ceux qui le voulaient bien, d'aller habiter dans des logements totalement rénovés, ce qui était évidemment un avantage certain pour ces personnes.
La nouvelle figure de la rue de la République, ses transformations sociales, s'inscrivent-elles dans une volonté des pouvoirs publics et de la direction d'Euroméditerranée d'encourager la ville et le centre-ville particulièrement à s'enrichir? Pierre Figueras, directeur général adjoint d'Euroméditerranée.
Alors, il y a plusieurs facettes derrière votre question. Il y a une réalité, c'est que Marseille est une ville pauvre, habitée en majorité par des gens pauvres. Et ces gens, il faut leur proposer des moyens de se loger. Donc la réponse, elle passe par une production massive de logements, Comme je disais, on a jusqu'à présent produit ou lancé 2000 logements, dont 30% de logements sociaux. Alors c'est très intéressant. On a lancé une des premières opérations importantes, significatives qu'on a livrées, donc M5. On a fait une enquête auprès des habitants, des nouveaux habitants de M5 pour savoir d'où c'est qu'ils venaient, quel était leur parcours résidentiel, etc. Et notamment, dans toutes nos opérations de logement, on prévoit de réaliser 20% de logements sociaux. Et donc on a fait une enquête auprès des premières familles qui avaient emménagé dans les logements sociaux de M5. Et en fait, on s'est rendu compte à la lueur de cette enquête que je crois que c'est 90% des habitants des logements sociaux de M5 habitaient auparavant le quartier, la plupart dans des logements insalubres. Donc ce qu'on voit, c'est que la production de logements sociaux neufs permet à des familles résidant dans le quartier de se loger dans de bien meilleures conditions sanitaires, de confort, etc., à l'intérieur du quartier. Donc c'est une façon de répondre à votre interrogation. L'autre façon, c'est que je pense que la qualité, un des problèmes de ce quartier, c'était que la qualité des espaces publics était absolument, je vais dire un gros mot, mais dégueulasse, quoi.
Enfin, vous n'en avez pas.
Non, mais bon, les trottoirs, enfin, marcher, aujourd'hui, marcher dans la rue, venir du centre-ville pour aller à la Joliette, on commence à voir comment on peut faire, quoi. Je me souviens il y a quelques années que c'était pas un endroit pour les piétons. Non. Donc l'enjeu, un des enjeux très importants, c'est de proposer des espaces publics, d'une ville apaisée, d'une ville qui soit agréable à vivre, d'une ville confortable. Ça veut dire des trottoirs larges, ça veut dire des voitures qui ne soient pas garées dans tous les sens, ça veut dire des trottoirs propres aussi. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Bon, ben oui, l'Euroméditerranée, on a parlé de rayonnement international, mais c'est aussi des choses qui sont au moins dans la conception, parce qu'après la gestion c'est autre chose, mais parce que c'est pas nous qui gérons ces espaces, mais en tout cas on est là pour les réaliser, pour les aménager. C'est de proposer des aménagements de qualité pour une ville qui soit agréable à vivre pour tous.
Bienvenue aux Riches, deux émissions pour tenter de mieux comprendre les enjeux de la complexité du projet de réhabilitation de la rue de la République. Demain, nous entendrons ses habitants, une relogée, comme il s'appelle maintenant, et une résistante au relogement. À demain.